Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me rejoindre dans la partie vocabulaire dédiée au module 73, rituels et comportements sociaux en France. J'espère que le module vous a plu. Il était long, il était dense, il était riche en informations. Alors j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la culture française et j'espère aussi que vous avez appris de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Aujourd'hui, nous avons sélectionné une trentaine de mots issus du module, donc vous les avez tous déjà entendus au moins une fois en contexte, et nous allons essayer de prendre le temps d'expliquer ces mots, d'expliquer ces expressions. Peut-être que tous les mots sont nouveaux pour vous, ou peut-être que vous les connaissez déjà tous. Dans tous les cas, je vous invite à être attentif. L'utilisation de mots en contexte est la façon la plus efficace de s'en souvenir, d'intégrer de nouveaux mots et de pouvoir utiliser ce vocabulaire de façon active. Alors soyez attentifs et on commence avec le premier mot. Il s'agit du mot « rituel » que vous retrouvez dans le titre du module. Mais un rituel, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, un rituel, c'est quelque chose, c'est un comportement qui est proche d'une coutume. C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois, en tant que personne, ou alors plusieurs fois de génération en génération. C'est un comportement de société. Par exemple, si votre arrière-grand-mère avait certains rituels dans la maison, eh bien peut-être que votre grand-mère a récupéré les rituels, et puis votre mère, et puis maintenant c'est vous. Des rituels, on en cite plusieurs dans le module. On parle surtout de rituels sociaux, mais ça peut être des rituels familiaux, religieux, culturels. Parfois, on parle même des rituels des sportifs. Vous savez, par exemple, un athlète qui s'apprête à courir une course, il peut avoir des habitudes, des gestes, des rituels avant de courir. Ça peut être embrasser un médaillon ou un petit geste de la main. Une boisson qu'il consomme avant chaque course. Ce sont des choses, des gestes, des comportements qu'on répète. Ce sont des rituels. Le deuxième mot, c'est le mot subjectif. Quelque chose de subjectif, c'est un élément très personnel. C'est quelque chose qui s'applique à vous et à vous uniquement. Ici, on dit que les choses dont on parle dans le module sont subjectives. C'est normal, c'est parce que ce module, il a été écrit par deux Français. Donc c'est leur point de vue à eux, le mien et celui de Johan. Mais ce n'est pas le point de vue de tous les Français. Tous les Français ne peuvent pas être du même avis, c'est impossible. Alors quand on dit c'est subjectif, on dit c'est propre à certains individus. C'est mon avis, c'est subjectif, c'est ton avis, c'est subjectif. Si je vous dis... Le meilleur gâteau du monde, vraiment le meilleur, c'est celui que cuisine ma maman. Bon, c'est subjectif, c'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre. Déjà parce que vous n'avez jamais goûté le gâteau de ma maman, et puis que vous avez un autre avis. Donc, quand je dis « c'est ce gâteau le meilleur du monde », c'est subjectif. La prochaine expression, elle ne veut pas dire la même chose que subjectif, mais c'est un peu dans la même idée. C'est l'expression « à deux égards ». Le mot « égard », il a plusieurs sens, plusieurs significations. Mais on va le voir aujourd'hui uniquement dans le contexte de l'expression. « À deux égards », donc, ça veut dire « de deux points de vue différents », à propos d'un certain sujet. Dans le module, on parle d'une sélection personnelle à deux égards. Ça veut dire, encore une fois, que c'est une sélection faite par deux personnes différentes. Ce sont leurs points de vue sur un sujet, le point de vue de Johan et le mien. Si on disait « à l'égard de ce module », on dirait « au sujet de ce module ». C'est ça qu'elle veut dire, cette expression. Et l'expression suivante, c'est « le vif du sujet ». Le mot « vif » au masculin et « vive » au féminin, vous reconnaissez peut-être qu'il vient du mot « vivant ». Quelque chose de vivant, c'est plein de vie. Quelque chose ou quelqu'un qui a de l'énergie. Si vous dites que votre enfant est très vif, ça veut dire non seulement qu'il a beaucoup d'énergie, mais peut-être qu'il est vif d'esprit aussi. Il est malin. Vous pourriez décrire un morceau de musique en disant que c'est vif. C'est une vive mélodie. Ça veut dire qu'elle a de l'énergie. Et l'expression en elle-même, le vif du sujet, ça désigne le point le plus important ou le plus intéressant de quelque chose. Le point le plus significatif, ici du sujet. Par exemple, je parle avec mes amis et je leur dis « Bon, je ne vais pas vous faire attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. » C'est ce que vous voulez entendre, c'est la partie intéressante du discours. C'est quelque chose que vous pourriez dire aussi au début d'une réunion. Vous êtes au travail, vous êtes occupé, il y a des choses à faire, donc on ne veut pas attendre. On veut rentrer directement dans le vif du sujet, la partie qui nous intéresse. C'est très courant comme expression. Le mot suivant, le mot bémol. On va mettre un premier bémol. Alors, s'il y a des amis musiciens chez Français Authentique, vous connaissez peut-être déjà ce mot. Un bémol, c'est un signe musical qu'on écrit souvent comme un petit B, B comme bémol, et on le met devant une note sur une partition de musique, c'est là qu'on écrit les notes, et si vous mettez un bémol devant une note, alors vous baissez la note d'un demi-ton. Vous changez cette note. Alors cette expression, elle veut dire quoi? Eh bien, quand on dit mettre un bémol, ça veut dire qu'on veut adoucir son ton. On veut radoucir ses paroles. Ici, dans le cas du module, on veut même dire apporter une précision à son discours. Johan, il explique qu'il va parler de différentes choses en France, mais il met un bémol parce qu'il a une précision à apporter. Il veut dire que ça dépend des régions. Donc il vient adoucir son discours, nuancer ses propos, mettre un bémol. Le mot dialecte, il désigne une forme régionale et très spécifique d'une langue. Les dialectes, il n'y en a pas uniquement en français. Il y en a peut-être dans votre langue maternelle. Peut-être que vous en parlez certains vous-même. En France, il y a certains cours pour apprendre les dialectes français, pour que ces langues régionales ne se perdent pas, même si on ne les parle plus forcément au quotidien. On peut penser à l'occitan, au breton ou même en Corse. Ce sont des langues régionales, des dialectes. Le mot grossière, ici au féminin, mais au masculin, c'est grossier. Grossier, grossière. Dans le module, on parle d'une tendance grossière. Alors c'est intéressant parce que ici on ne veut pas dire grossier comme vulgaire ou comme dire des gros mots. Non, ici c'est différent. Quelque chose de grossier, c'est quelque chose de plus ou moins vague, quelque chose de pas précis. Parfois on peut dire grossièrement aussi. Si par exemple vous venez d'acheter une maison, vous en parlez à un de vos amis et vous avez envie de faire un petit dessin pour que cet ami se rende compte de quoi vous parlez. Vous pouvez lui dire « Bon, grossièrement, ça ressemble à ça. » Ça veut dire « plus ou moins » pour te donner une idée. Ce n'est pas un dessin précis. Là, dans le module, quand on dit « une tendance grossière », ça veut dire une tendance très vague, une tendance sans rentrer dans le détail. C'est large, mais ça ne veut pas dire vulgaire. Une tendance grossière, ce n'est pas vulgaire. Attention au contexte. Les familles recomposées. Le mot recomposé. Vous entendez probablement le mot composé. Eh bien, composer, c'est un verbe qui signifie former quelque chose avec plusieurs membres, plusieurs éléments. Par exemple, le mot recomposer est composé de plusieurs éléments. Il est composé du verbe composer et du préfixe re, recomposer. Un autre exemple, ce serait de dire que vous préparez un repas composé de quatre plats différents. Les quatre plats ensemble forment le repas. Mon frère, ma sœur et moi, nous composons ma fratrie. Ils sont les membres de ma fratrie. Donc, recomposer, on peut imaginer que quelque chose a été cassé ou séparé, et qu'à partir de ces choses séparées, on fabrique quelque chose de nouveau. Par exemple, on parle souvent de papier recomposé. Il s'agit de papier recyclé. Vous savez, au lieu de jeter du papier, vous le recyclez et on s'en sert pour fabriquer du nouveau papier. On appelle ça du papier recomposé. Ici, on parle de la famille. Une famille recomposée, c'est une famille dont les membres ne sont pas tous issus de la même famille biologique. Des parents peuvent se séparer, puis rencontrer de nouveaux partenaires, et ces partenaires ont peut-être de nouveaux enfants. Alors on forme une grande famille qui vient de différents horizons. Deux familles ensemble forment une famille recomposée. Le mot soudé, c'est un verbe qui signifie joindre ou coller des choses entre elles. Ça peut être des pièces métalliques, par exemple, ou des pièces en plastique. Et on les joint, on les colle en les faisant fondre. Donc on applique de la chaleur, les deux parties fondent un peu et elles se retrouvent collées. Ici, dans le contexte, on parle de la famille. Alors on ne prend pas le verbe au sens littéral. C'est un peu plus imagé. Quand on parle d'une famille soudée, de membres de famille soudés, ça veut dire qu'ils sont très proches. Ils s'entendent très bien et ils sont presque inséparables. Une famille très soudée, c'est une famille dont les membres sont très proches. De bon goût. Dans cette expression, on entend bien sûr le mot goût. Le mot goût, ça désigne quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça peut concerner la nourriture. Mes goûts alimentaires, c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas. J'aime la tarte aux fraises, je n'aime pas la tarte aux fraises, chacun ses goûts. C'est la même chose pour les goûts musicaux, les goûts en matière de littérature, les goûts en matière de vêtements. Ce sont vos préférences. Et quand quelque chose est de bon goût, c'est quelque chose qu'on trouve soit joli, soit esthétique, soit intéressant. Quelque chose de bon goût, c'est quelque chose qui correspond à vos goûts, à vous, à vos codes. Si vous allez visiter la nouvelle maison d'un ami et que vous dites « c'est vraiment une décoration de très bon goût », ça veut dire que vous appréciez la décoration, les couleurs, l'organisation. Ça vous plaît, selon vos propres goûts. Il y a des choses qui sont plus généralement reconnues comme du bon goût, des choses qui, en général, plaisent à tout le monde. Dans le module, on dit « il est de bon goût d'apporter quelque chose ». Quand on va manger chez quelqu'un, ça veut dire que c'est bien vu. C'est une habitude qui est appréciée. En général, les gens sont contents. En général, c'est de bon goût. Et le mot tabou alors? Alors tabou, ça peut être un nom, un tabou, ou un adjectif, quelque chose de tabou. Et un tabou, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler. Ça peut être des tabous au sein d'une famille. Donc dans une famille particulière, il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder, des tabous de la société, donc des thèmes qu'on a tendance à éviter, ou bien des tabous personnels. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très à l'aise à parler de tout, mais pas vous. Vous avez vos propres tabous. Et bien sûr, vous avez le droit. Dans le module, on dit que les tabous en France, c'est la sexualité, la politique, la religion. Ça, ce sont plutôt des tabous de société. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Peut-être que pour vous, c'est très normal d'en parler, et peut-être que vous avez plus de tabous. Ça varie. Le mot friction. Le mot friction a plusieurs sens, mais on va se concentrer sur le sens utilisé dans le module. Le verbe frictionner, il veut dire frotter. Par exemple, vous avez une petite allergie sur la peau et votre médecin vous a dit de vous frictionner avec une lotion. Donc vous devez vous frotter. Et lorsque vous frottez quelque chose, en règle générale, ça chauffe, non? Si vous frottez vos deux mains l'une contre l'autre, vous allez remarquer que ça chauffe. Donc lorsqu'on parle d'une friction, d'un point de vue imagé, ça veut dire des problèmes, des disputes. Une friction, c'est quelque chose qui chauffe entre deux personnes. Ici, on parle justement des tabous. Si on veut éviter les frictions, donc si on veut éviter les problèmes, on évite les sujets tabous. Vous pourriez dire que vous ne parlez jamais d'argent avec vos amis parce que c'est un sujet à friction. et que vous préférez éviter les frictions. Vous préférez éviter les moments où ça chauffe, vous préférez éviter les problèmes. Le mot « trancher ». Alors, ici c'est conjugué, mais le verbe « trancher », il veut dire « couper ». Si vous dites que vous tranchez du bois, par exemple, c'est que vous le coupez. Ou bien, vous avez peut-être déjà entendu « du pain tranché ». Ça veut dire « du pain coupé ». Une tranche, en règle générale, c'est relativement peu épais. Mais en tout cas, c'est quelque chose de coupé de façon nette. Dans le module, on parle d'un avis tranché. Ça veut dire qu'on a un avis arrêté. On sait ce qu'on pense. On n'hésite pas. Et souvent, ça veut dire qu'on ne changera pas d'avis. Si vous dites « c'est difficile de parler avec elle parce qu'elle a des avis tranchés sur tout », ça veut dire que cette personne, elle a des avis et elle ne veut pas en changer. Mais vous pourriez le dire à la négative. Vous pourriez dire « oh, moi, la politique, je ne sais pas trop. J'ai pas vraiment un avis tranché là-dessus. » Ça veut dire que c'est pas net. C'est un petit peu flou. Vous n'êtes pas arrêté. Le mot « sage », c'est un mot intéressant parce qu'il a deux sens différents. Le premier, et vous l'avez peut-être déjà entendu, on l'utilise souvent pour les enfants. Ça veut dire qu'ils sont calmes, ils ne font pas de bêtises, ils sont dociles. Le deuxième sens, et c'est celui utilisé dans le module, « sage » décrit quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'expérimenté, avec de l'expérience donc. Quelqu'un qui pense et qui agit ensuite. Johan explique qu'avec le temps, il est devenu plus sage, donc plus réfléchi. Ça veut dire qu'il pense avant d'agir, il pense avant de parler, il fait attention. Et ça, c'est une preuve de sagesse. Ça prouve qu'il est très sage. L'expression « une zone d'ombre ». C'est une expression intéressante et à l'origine, c'est une expression dont on se sert dans le domaine géologique. Géologique, c'est donc l'étude de la Terre. En géologie, une zone d'ombre, ça désigne une zone, un endroit où on ne peut pas enregistrer les ondes de tremblement de terre. Vous savez que c'est des choses qu'on peut enregistrer sur des cartes. Eh bien, les zones d'ombre, ce sont les endroits où, malgré la technologie, on ne peut pas enregistrer. Aujourd'hui, cette expression, elle est utilisée pour un sujet, un événement où les avis ne sont pas tranchés, finalement. Où les avis ne sont pas définitifs. C'est un peu flou. On a une idée générale, mais rien de précis. À ce moment-là, dans le module, Johan parle de la religion à l'école. Il dit que normalement, on n'a pas le droit de montrer de signes religieux. Il parle de porter une croix autour du cou ou de porter le voile. Et effectivement, il y a des établissements qui appliquent cette règle à la lettre. C'est interdit. Et dans d'autres établissements, les règles sont un peu plus souples. On autorise le voile, on autorise les croix, on autorise les symboles religieux. Donc, c'est une zone d'ombre. Ça veut dire que chaque établissement fait un petit peu ce qu'il veut, finalement. Le mot « gamelle ». Une gamelle, ça a plusieurs sens. La façon dont Johan l'utilise dans le module, c'est pour désigner un récipient pour la nourriture. Une boîte où vous mettez votre nourriture quand vous allez au travail, par exemple, avec votre repas du midi. C'est un terme un peu ancien, qu'on utilisait surtout pour les ouvriers ou les soldats. Mais on l'utilise encore aujourd'hui. Vous entendrez beaucoup de Français utiliser le mot « lunchbox », que nous avons encore volé à l'anglais, mais beaucoup de gens utilisent encore le terme « gamelle ». Malgré tout, si vous l'utilisez, certains Français trouveront ça un peu drôle, soit parce qu'ils trouvent ça un peu ancien, ou alors parce que c'est aussi comme ça qu'on appelle l'assiette des chiens. Si vous avez un chien, vous mettez sa nourriture dans un bol, ce bol, on appelle ça la gamelle. Par exemple, c'est un terme que j'utilise très souvent. Je dis que je prépare ma gamelle pour aller au travail, et il y a certains Français qui trouvent ça assez amusant. Vous pouvez choisir de l'utiliser ou pas, c'est comme vous voulez. Gamelle a un troisième sens, un peu plus familier cette fois, pour désigner une chute. Si vous dites que quelqu'un s'est gamellé, vous voulez dire qu'il est tombé. Attention, hein, c'est quand même assez familier, donc ne l'utilisez pas au travail, par exemple. En tout cas, ça, c'est une gamelle. Le mot expéditive. De façon expéditive. Cette expression, elle veut tout simplement dire rapidement. Faire quelque chose vite fait. Ici, on dit qu'on mange de façon expéditive. Alors, ça veut dire qu'on ne prend pas le temps de manger. On ne se pose pas pour prendre le temps, on le fait vite, vite, vite. Expéditive, ou expéditif au masculin, ça vient du verbe expédier. Et expédier, ça veut dire envoyer. Expédier un colis, par exemple. Envoyer un colis. Donc c'est comme si on faisait quelque chose comme ça. Hop, en l'envoyant. Rapidement. J'ai un dossier à rendre, mais je vais expédier ça vite fait. Je vais le faire rapidement. Le mot copieux. Copieux ou copieuse, c'est quelque chose qui est souvent utilisé par rapport à la nourriture, par rapport au repas. C'est le cas ici d'ailleurs. Et copieux, ça veut dire abondant, où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Un repas copieux, donc, c'est que vous avez beaucoup de plats, beaucoup d'options, beaucoup de choses différentes à manger. Si après un bon repas chez des amis, vous leur dites « c'était délicieux, c'était très copieux », ça veut dire que vous avez beaucoup, beaucoup mangé. Ça peut être une bonne chose, mais parfois vous pouvez sous-entendre que c'était trop. Si vous dites « oh, c'était beaucoup trop copieux », c'est que cette fois-ci vous avez trop mangé. Le mot « commode ». Commode, ça désigne quelque chose de facile. Quelque chose de pratique et de simple. Dans le module, on dit « c'est commode d'aller dans des bistrots quand on habite en ville » ou quand on travaille en ville. Eh bien, ça veut dire tout simplement que c'est facile, parce que ce n'est pas loin. C'est facile d'aller manger dans un bistrot s'il y en a un dans votre rue, donc c'est commode. C'est moins commode d'aller à l'opéra, par exemple, s'il n'y en a pas dans votre ville. Ça veut dire qu'il faut faire de la route, il faut réserver du temps, c'est de l'organisation. C'est possible, bien sûr, mais ce n'est pas très commode. Si vous partez en week-end avec des amis, vous pouvez leur proposer du covoiturage, vous pouvez leur proposer d'y aller en voiture ensemble, parce que c'est plus commode. C'est plus pratique d'y aller à une seule voiture, plutôt qu'à deux, trois ou quatre. C'est plus commode, c'est plus pratique. L'expression « avec modération ». Faire quelque chose avec modération, ça veut dire qu'on évite les excès. On fait attention à la quantité. S'il y a des gens parmi vous qui boivent de l'alcool, vous avez sûrement déjà entendu « consommer l'alcool avec modération ». Ça veut dire « faites attention à la quantité ». N'en buvez pas trop. Bon, bien sûr, ce n'est pas obligé d'en boire. Vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool. Mais si vous en consommez, on conseille toujours de le faire avec modération. Ça ne concerne pas que l'alcool. Vous pouvez entendre consommer certains aliments avec modération, les choses un peu mauvaises pour la santé, ou même l'utilisation de l'ordinateur. C'est toujours bien de le faire avec modération. Ou de façon modérée. C'est une autre formulation, mais ça veut dire la même chose. Il faut consommer de façon modérée. L'expression « mauvais goût ». Mauvais goût, j'imagine que vous vous doutez de ce que ça veut dire. On a parlé du bon goût tout à l'heure. Eh bien, le mauvais goût, c'est l'inverse. Ce sont des choses, des événements, des actions qui, selon vos critères, ne fonctionnent pas très bien. Souvent, on peut parler d'humour de mauvais goût, de blagues de mauvais goût. Si quelqu'un fait une plaisanterie et que vous n'appréciez pas, vous trouvez ça limite, vous trouvez ça déplacé, vous pourriez dire que c'est une blague de mauvais goût. Ou bien, si vous croisez quelqu'un dans la rue et vous n'aimez pas du tout la façon dont cette personne est habillée, vraiment, pour vous, ce n'est ni chic, ni élégant, ni peu importe, les choses qui vous concernent, selon vos propres goûts, vous pourriez dire « oh là là, cette personne est habillée n'importe comment. C'est vraiment de mauvais goût. » Encore une fois, c'est très personnel. C'est subjectif, comme on a vu tout à l'heure. Le bon goût et le mauvais goût, c'est très subjectif. Ça dépend de chaque personne. L'expression « avoir tendance à ». Alors attention, elle fonctionne toujours comme ça. C'est toujours « avoir tendance à ». On utilise toujours « avoir » et toujours la préposition « à ». D'ailleurs, il y a un podcast français authentique sur le sujet, où Johan vous donne plus d'explications et plus d'exemples. Mais grossièrement, sans rentrer dans trop de détails, « avoir tendance à », ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites de façon naturelle, spontanée, et que vous le faites souvent, voire régulièrement. Si vous dites « je suis très calme, je n'ai pas trop tendance à sortir », ça veut dire que vous ne sortez pas beaucoup. Naturellement, vous restez plutôt à la maison. Ou bien, elle a tendance à oublier tous les rendez-vous. Ça veut dire que cette personne, eh bien régulièrement, elle oublie les choses, elle n'a pas une très bonne mémoire. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller chercher le podcast, vous aurez plus d'exemples. Le mot litige. Un litige, c'est une contestation, un désaccord entre deux personnes. Deux ou plus de personnes, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, on dit qu'il y a un litige entre la galanterie et le sexisme. Ça veut dire que les gens ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui pensent que la galanterie, c'est sexiste, et il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème avec la galanterie, que ce n'est pas sexiste. Mais ces personnes, elles ne sont pas d'accord. Elles ont des avis tranchés, on a vu ça tout à l'heure, elles ont des opinions tranchées, mais ce ne sont pas les mêmes. Alors il y a un débat, il y a un désaccord, il y a un litige. Le mot « diplomate ». Lorsqu'il s'agit d'un nom, un diplomate, c'est une personne qui est chargée par un gouvernement de certaines fonctions diplomatiques. Il s'agit en fait de l'ambassadeur d'un pays, le porte-parole d'un pays, qui vient parler au nom du pays. Donc on imagine qu'un diplomate, il doit avoir de bonnes manières. Il doit être correct, il doit être poli. Vous imaginez, il représente quand même le pays, donc c'est important. Et le fait d'être poli et d'être correct, on appelle ça la diplomatie. Si vous dites que votre père ou votre ami est diplomate, vous ne voulez pas forcément dire que c'est un diplomate, que c'est sa profession. Ce que vous voulez dire, c'est que cette personne, votre père, votre ami, est quelqu'un de correct, quelqu'un de poli, quelqu'un qui sait se tenir. Être diplomate, ça fait partie des comportements sociaux. Le mot fléau. Alors attention, parce que c'est un mot un peu extrême qui désigne une calamité, quelque chose de très très grave qui arrive à une population. On parle par exemple du fléau de la guerre. Les pays touchés par la guerre souffrent beaucoup. La guerre est un véritable fléau. C'est très grave, c'est très intense. Mais dans le langage courant, on utilise ce mot d'une façon beaucoup, beaucoup moins sérieuse. Dans le module, Johan dit « on fait face au fléau des trottinettes électriques ». C'est une façon de parler, bien sûr. Johan ne pense pas que c'est dramatique, que c'est horrible, que c'est le pire des fléaux. Mais il pense que c'est énervant, que c'est agaçant, peut-être même que c'est un problème. C'est très employé de cette façon. C'est très employé juste pour désigner des choses que vous jugez, personnellement, à titre subjectif, de problématiques. Certaines personnes pourront dire que les réseaux sociaux, ce sont un fléau. Ce sont des personnes qui ne sont pas en faveur des réseaux sociaux. Le mot pudique. Le mot pudique, ça veut dire avoir envie de garder quelque chose pour soi. Ça peut être physique. Si vous êtes pudique physiquement, ça veut dire que vous ne voulez pas montrer votre corps. Lorsque vous vous habillez, c'est important pour vous de cacher certaines parties de votre corps. Il y a des gens qui ne sont pas pudiques du tout et qui portent des vêtements qui laissent apparaître leur corps. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Pudique, ça peut aussi être émotionnel. Ça veut dire qu'on ne veut pas montrer ses sentiments. On ne veut pas montrer la tristesse, la honte. Mais on ne veut pas non plus montrer la joie et le bonheur. On n'a pas envie de montrer trop. On a envie de cacher un petit peu. Ça, c'est être pudique. Le mot amande. Alors attention, ici on ne parle pas du fruit à coque, dont on se sert pour faire de l'huile et des gâteaux, qui est très bon à manger. Ça c'est amande avec un A. Avec un A, c'est le fruit. Ici on dit une amande avec un E. Amande, E. C'est exactement le même son, alors je sais, c'est parfois un peu perturbant. Mais ça a deux sens très différents. Le premier, on l'a dit, c'est le fruit. Le deuxième, celui dont on se sert dans le module, désigne une contravention, une pénalité, quelque chose qu'on doit payer parce qu'on a commis un acte qui est mal aux yeux de la loi. Vous savez, il y a des règles à suivre en société, et si on ne les suit pas, eh bien il faut payer, il faut donner de l'argent à l'État. Par exemple, si vous ne traversez pas au passage piéton, ou si vous jetez votre cigarette par terre, ou si vous allez trop vite en voiture. Si vous ne respectez pas toutes ces règles, vous pouvez recevoir une amende, un certain montant d'argent à payer. Justement, on parlait de cigarettes, le prochain mot c'est le mot mégot. Le mot mégot, il désigne la fin de la cigarette. Lorsque quelqu'un fume une cigarette, il reste toujours un petit morceau que les personnes écrasent dans un cendrier, et cette partie, on appelle ça le mégot. Le morceau qui reste, après avoir fumé une cigarette, c'est un mégot. Et en France, ça peut coûter très cher de laisser traîner ces mégots par terre dans la rue. Alors faites attention, utilisez toujours une poubelle ou un cendrier de poche. Et on termine avec l'expression « du fond du cœur ». Vous savez qu'en français, le mot « cœur », il est toujours associé aux émotions. Donc, lorsque Johan dit qu'il vous remercie du fond du cœur, ça veut dire qu'il vous remercie profondément, avec beaucoup d'émotions. C'est une expression très utilisée pour dire que vraiment, vous voulez remercier très fort une personne. Vous avez beaucoup de gratitude. Et c'est ça qu'il dit, Johan. Il vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Et moi aussi, je vous remercie du fond du cœur pour votre attention et pour votre écoute. J'espère qu'ensemble, on a pu expliquer les mots de façon claire et précise. J'espère que vous les comprenez un peu mieux et j'espère que si vous les connaissiez déjà, les nouveaux exemples vous auront permis de solidifier vos connaissances. Si vous n'êtes pas sûr, réécoutez ce fichier. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter une seule fois. Au contraire, on vous invite à écouter ce genre de fichier de nombreuses fois. Parce que la répétition, on le dit, on le répète, mais c'est très important. C'est comme ça que ça rentre. C'est comme ça que les informations restent gravées à l'intérieur de votre esprit. Alors bon courage pour toute cette pratique. De nouveau, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt.